Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Afflux, ravi de vous retrouver pour une émission un petit peu spéciale et toujours, bien sûr, accompagné de mon acolyte Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour cette belle émission. Poulard Afflux, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité dont on dit qu'il est un entraîneur entraînant et qui va jusqu'à écrire des livres sur le management.
Oui, Arnaud, comment devenir une meilleure version de soi-même? Comment faire face aux doutes? Comment vivre sereinement sous pression? Comment réussir ses échecs? Bref. En 2008, je me suis plongé à âme perdue dans le développement personnel, dans la philosophie, dans la psychologie, pour tenter de m'apprendre différemment, essayer de grandir autrement qu'avec les clichés de virilité qui peuvent étouffer quand ils ne sont pas vraiment compris et incarnés. Je vous avoue que mes potes m'ont un peu pris pour un fou, pour un perché, un excentrique, et je vous avoue aussi que j'en suis devenu con et dogmatique un temps certain. Car les mots sont beaux, mais peuvent sonner creux quand les actes ne suivent pas derrière. La carapace peut être belle, mais si le moteur ne suit pas, ça sonne creux comme un sentiment d'imposture. Bref, j'ai fait un long voyage. Et si un jour on m'avait dit que les réponses à mes questions existentielles me seraient apportées en partie par le monde du rugby, j'aurais pas mis une pièce. Et pourtant, le sport se doit d'inspirer la société et ses citoyens, surtout dans les moments compliqués qu'elle traverse. Une saison en enfer fait partie de ces livres que tu dévores parce qu'il allie à la fois théorie, expérience, philosophie, voyage initiatique et petit exercice pratique. Un ouvrage qui ose parler, dans un sport très viril, de droit à l'échec, de remise en question et de vulnérabilité. Selon moi, elle est là, notre révolution. Dans ce monde incertain où tout va vite et où le paraître est le maître mot pour réussir, la confiance en soi, le leadership, la réussite, l'esprit d'équipe passerait presque aux yeux de certains pour de l'arrogance. Et pourtant, nous avons besoin de s'inspirer de ces personnes, des femmes et des hommes audacieux que j'appelle moi personnellement, pour en avoir rencontré certains et certaines, des Merlin l'Enchanteur. Christophe Furios et son ami de voyage, Frédéric Rémilet, nous offre dans ce livre comme une Madeleine de Proust, un moment de pause, un temps de réflexion, un break, et nous partage à la fois des outils théoriques et des expériences de vie pour nous inspirer, nous faire prendre de la hauteur et nous permettre de s'apprendre différemment. Parce qu'être meilleur ne s'arrête jamais, parce que devenir son propre héros demande du courage et un retour sur soi, parce que sans l'autre, nous ne sommes pas grand-chose. Je suis heureux de partager ce moment avec toi, Christophe, pour tenter de comprendre l'homme derrière le coach, derrière le chef d'entreprise. Donc, bienvenue, Christophe Furios, dans Poulain Rafute. Salut, Christophe.
Salut. Putain, ça fait super.
Bon, vous l'avez compris, on ne reçoit pas forcément aujourd'hui le manager de l'UBB, leader du top 14, mais le manager tout court, celui qui a sorti donc il y a quelques semaines un livre intitulé « Une saison en enfer » en collaboration avec Frédéric Rémilet, donc aux éditions Erol. Je le montre pour ceux qui nous regarderont et pour ceux qui nous écoutent. Je vous incite évidemment à vous le procurer pour ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur le management et sur le développement personnel. Christophe, très rapidement, d'abord, question toute simple. Comment est née un peu la genèse de ce livre?
Alors, en fait, on avait déjà un projet depuis un certain temps avec mon ami Fred Rémilet d'écrire un deuxième livre, parce qu'on en avait écrit un déjà en 2018 qui était plutôt quand même très axé rugby, notamment c'était en fait le suivi d'une saison. Là, on avait souhaité, et à l'issue de ce bouquin, on avait dit ce serait bien d'en faire un second, un peu différent sur le développement personnel, etc., etc., etc. D'autant plus avec l'histoire du Covid et notamment à Bordeaux, on a quand même été très impacté. Je pense à sa première année où j'arrive, on est premier, puis le championnat s'arrête. La deuxième année, donc on ne savait pas trop comment on allait repartir. Et c'est de cette période-là où on a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas écrire un livre avec évidemment beaucoup d'humilité. Ce n'est pas un livre qui donne des leçons. C'est un rapport d'expérience, en fait. parce qu'on est dans une situation qui n'est pas facile. Et c'est vrai qu'au mois de, c'était au mois de mai, je crois, quand Fred un jour m'appelle et me dit « Qu'est-ce que tu en penses si on écrivait ce bouquin, ce deuxième bouquin ?» Nous, on était dans la saison, on commençait à arriver vers la fin, les phases finales. On avait déjà fait deux demi-finales. J'écoute, il me dit « Ouais, c'est top ça, par rapport à l'histoire que vous êtes en train de vivre. La saison dernière a arrêté, ça a été un traumatisme pour le club. Repartir, refaire ce que vous faites aujourd'hui, ça peut être intéressant, intéresser les gens. » Bon, ça m'a pris à peu près 3 minutes de réflexion, parce que je suis assez content. Et j'ai dit « Ok, on va le faire. » Donc voilà, voilà comment on est venu, c'était un matin du mois de mai. Et voilà, parce que je trouve que voilà, il y a des histoires et des expériences qui sont toujours intéressantes à raconter. Encore une fois, on ne se positionne pas en donneur de leçons, on dit juste comment s'est passée la saison à travers des histoires qui sont intéressantes.
Mais c'est très riche, hein, on a vu, on l'a lu évidemment dans le week-end avec Raph, on l'a dévoré chacun de notre côté. Il est beaucoup question, Christophe, de développement personnel, et il y a deux, trois petites phrases qui ont retenu notre attention, notamment celle de ta philosophie personnelle, hein. Raph en a parlé dans son préambule, « Être meilleur ne s'arrête jamais ». Et tu développes aussi avec cette citation que tu as partagée, notamment avec tes joueurs, « Le prix de la discipline est toujours moins élevé que la douleur du revers ». Très honnêtement, en bon pilier, ancien pilier de fédéral, j'avoue que j'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas toutes les réponses. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu as senti tes joueurs réceptifs à ce genre de propos ?
Oui, je crois que ça les interpelle. Ouais. Je crois que ça les interpelle. Moi, maintenant, je commence à avoir de la bouteille. Hein. Ça fait 20 ans que je suis avec les pros, donc je commence à avoir un peu de bouteille. Quand j'ai commencé l'entraînement, ce qui me paraissait important et essentiel, fait en tous les cas à mes yeux, c'était apporter une expertise technique. Bon, j'étais un jeune entraîneur, de par ma fonction, entraîneur des avants, je devais amener ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure que le temps passe et mon évolution, et notamment à partir de mon passage à Ohio, qui pour moi, le passage à Ohio était un vrai passage où j'ai grandi, où je me suis construit sur ce que j'avais envie de faire en fait. J'avais passé 3 ans à Castres en entraînant les pros. J'avais passé 2 ans à Bourgoin où franchement, j'étais pas très bien, quoi. Je me réalisais pas, en fait, dans mon métier, quoi. Je me disais, entraîner pour faire ça me plaît pas. Ça m'intéresse pas. J'avais besoin de m'engager davantage avec les joueurs, que les joueurs s'engagent, qu'ils portent le projet, qu'ils soient capables de définir une vision. Et à partir de là, effectivement, j'ai réussi à, ça m'a plu. Parce que pour moi, le rugby, c'est pas que le jeu, quoi. C'est plus que le jeu. C'est pas que la problématique du jeu. Et c'est ça qui me plaît dans mon métier aujourd'hui. Donc voilà. Je crois que quand tu associes les joueurs au projet, quand tu associes les joueurs au projet, quand tu fonctionnes avec beaucoup d'honnêteté avec eux, les joueurs, je vais pas dire que c'est 100% d'adhésion parce que ça n'existe jamais, mais ça leur parle, quoi. Ça leur parle parce qu'on se bat pour évidemment gagner des matchs, on se bat pour jouer le meilleur rugby possible, on se bat pour être le plus performant possible, mais on se bat aussi pour un territoire, pour une région, pour un club, pour des gens du club, des supporters. C'est ça qui nous plaît, qui nous passionne. Donc, il faut élargir un peu le spectre du rugby et ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps pour comprendre ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, je me trouve à l'aise dans ce que je fais, quoi.
Ouais, ça se ressent. Enfin, dans le bouquin, et pour te connaître un petit peu, pour avoir lu aussi ton premier bouquin, ça se ressent. Est-ce que le fait, comme tu le dis, depuis 20 ans d'être dans le milieu, tu as vu la stratégie, tu as vu la technique, tu as vu la tactique, est-ce que la révolution, et moi, c'est ce que j'avais prôné il y a quelques années, mais on m'avait dit que j'étais pas précurseur, mais un peu lanceur d'alerte sur l'approche du coaching mental, est-ce que, alors quand je parle de coaching mental, c'est de comprendre l'individu pour le bien du collectif, c'est vraiment de savoir connaître un peu sa psychologie, est-ce qu'elle n'est pas là, la révolution et ta révolution au sortir de Bourgoin et d'Oyonnax, c'est de comprendre les hommes pour les faire adhérer à un projet. Et quand on parle de psychologie dans le monde du sport, c'est toujours un petit peu tabou, comme le développement personnel. Toi, tu parles d'humilité, et ça fait 2 fois que tu le dis, mais la révolution, est-ce qu'elle n'est pas là, justement, d'essayer de comprendre les hommes derrière les sportifs ?
Oh, je le crois. Je ne dis pas que le jeu, on a fait le tour, hein, parce que le jeu est toujours en évolution, en perspective, en permanence, avec des nouvelles règles. Il y a toujours des choses qui se mettent en place. Je crois que voilà, le jeu évolue en permanence, la préparation physique évolue en permanence, la préparation évolue en permanence. Après, tu as raison de dire que tout ce qui est l'aspect mental, l'aspect développement personnel, l'aspect réussite dans ce que je fais, mais c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément parce qu'on n'est pas très à l'aise, je crois. Mm-hmm. Très à l'aise et dans les relations humaines, ce n'est pas toujours facile. Moi, tu sais, maintenant, de plus en plus, je parle de, non pas de performance sportive, mais je parle de performance humaine. Parce que je crois que pour embarquer les gens, quel que soit le milieu d'ailleurs, hein, là on parle de rugby, mais ça peut être dans tout autre domaine.
On parlera du monde de l'entreprise après, je veux qu'on en parle aussi ensemble. Ouais. Dans ce monde aussi, justement, c'est aussi important. On n'est pas que des diplômes dans le monde de l'entreprise, on n'est pas que des corps et un physique ou une technique dans le monde du sport.
Et voilà, donc je trouve que comprendre le joueur, quel est son intime, c'est-à-dire, moi, quand on démarre la saison, je leur pose toujours 4 questions de façon très précise, mais des questions qui sont assez simples. Hein. Tu aimes faire quoi sur un terrain? C'est quoi ton objectif? C'est quoi tes points forts? Enfin, des choses très, très simples, quoi. Et ça engage le joueur. Et après, à partir de là, donc, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte... mon job à moi, c'est de faire en sorte de développer le jeu JE, c'est-à-dire le jeu, le moi, ma personne, et le nous, en fait. Le nous, c'est le groupe. C'est ça, mon job à moi. Alors, tantôt, je vais développer le jeu JE parce qu'on a besoin d'élever notre niveau, on marche plutôt bien et le collectif est bon, etc. Donc, je vais travailler là-dessus parce que c'est ce jeu JE qui va permettre de développer le nous. Et tantôt, je suis sur le « nous », parce que le « nous », c'est le groupe, le projet commun. Et quand on démarre une saison, par exemple, je vais développer le « nous », je vais travailler sur le « nous ». C'est-à-dire qu'on fait des bacchus, on fait des jeux, voilà, tout ce qu'on peut faire dans l'entraînement pour créer de la solidarité, qui va développer de la cohésion. Et quand ça marche bien, c'est jamais acquis, hein, par contre. Mais quand tu sens que tu es plus à l'aise, ben, tu vas travailler sur les individus. Et tu vas leur demander encore plus d'exigences, qu'ils soient durs avec eux, qu'ils soient meilleurs, parce que c'est eux qui vont faire progresser le groupe. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps. C'est-à-dire que moi, au départ, je me disais, si le groupe fonctionne bien, on n'aura pas de problème. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. C'est pas que ça, quoi. Ça ne peut pas être que ça. Parce que quand tu arrives dans des phases finales, quand tu arrives dans du très haut niveau, ben, tu rencontres des équipes qui ont aussi des bons groupes, qui fonctionnent bien, qui travaillent bien. Qui travaillent bien parce que tout le monde travaille bien aujourd'hui. Et ce qui fait la différence, c'est les mecs. C'est-à-dire que ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs soient capables d'être les meilleurs possibles. C'est ça. Et pour gagner des titres, ben, il faut que tes meilleurs joueurs soient les meilleurs, quoi. Et pour ça, il faut que ton groupe fonctionne bien. Donc, c'est pour ça que, moi, encore une fois, j'ai mis du temps pour non pas pour le comprendre, mais pour le théoriser, en fait. Je sais, ce que je faisais par le passé, ça me plaisait. C'était du rugby, c'est ma vie, le rugby. Mais ça ne m'allait pas suffisamment. Ça n'allait pas assez loin, quoi. Et c'est vrai que de travailler sur la vision, de travailler sur les objectifs avec les joueurs, de travailler sur ta raison d'être, la raison d'être, c'est fondamental. Pourquoi, par exemple, nous, on est à Bordeaux? Il n'y a pas que le fric, hein. Je suis désolé, quoi. Mais pourquoi on est à Bordeaux? Pourquoi les mecs viennent à Bordeaux? Par exemple, notre raison d'être, elle a évolué sur les deux premières années, celle-là. Elle a évolué parce qu'on a fait des phases finales, parce qu'on a senti qu'on n'était pas très loin de ce qu'on pouvait avoir. Et quand on a travaillé la raison d'être cette année sur notre saison, eh bien, les mecs ont parlé de culture de la gagne. Mais jusqu'à maintenant, on n'en parlait jamais. Et quand ça vient des joueurs, c'est puissant, quoi. Et c'est ça qui me plaît, quoi.
Ça propulse le projet. Et tu parles de perfection, en tout cas, de culture de la gagne. Et tu parles aussi d'Arsène Wenger dans le bouquin de Nelson Mandela, d'Elon Musk, de Richard Branson. Est-ce que c'est dur de marquer l'histoire et de supporter la critique? Je sais que tu t'en détaches de la critique, mais quand on est précurseur, en tout cas, quand on veut faire les choses différemment, est-ce que c'est compliqué?
Tu sais, je vais te dire quelque chose. J'ai une citation derrière, c'est pour ça que je me retourne, de Sénèque. Et Sénèque, il dit « Personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. » Et bien, mon pote, c'est la vérité. La vérité. Dès que tu dis les choses vraies, dès que tu sors un peu du machin, on te prend pour un débile, on te prend pour un con, ou on te prend pour un mec qui se prend pour un autre. Moi, ça, c'est des choses qui m'ont blessé quand j'étais un jeune mec. Même mon groupe, je ne savais pas trop des fois comment fonctionnait mon groupe. Aujourd'hui, je n'ai rien à cirer. C'est-à-dire que si j'ai envie de dire les choses, je les dis. C'est toujours la vérité. C'est toujours la vérité. Des fois, je me trompe, attention, hein, je ne dis pas que j'ai raison tout le temps, mais en tous les cas, je dis les choses. Et alors, voilà, ça peut, tu peux paraître prétentieux, un mec qui sort de d'ailleurs, un gosse qui s'invente des vies, mais c'est tout le contraire de ce que je suis, quoi. Et ça, il m'a fallu du temps, encore une fois, de l'expérience, d'être solide aussi, parce que, comme tu le sais, ben, dans notre milieu, quand tu dis des choses, quand tu gagnes, on la ferme, et puis dès que tu dérapes, eh ben, on te file dans le nez. Mais j'ai dépassé ça, moi. J'ai dépassé ça. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de ça. Il fut un temps où j'avais peur, je ne savais pas trop comment fonctionner. Aujourd'hui, je suis très à l'aise avec mon métier, je suis très à l'aise avec les joueurs avec qui je fonctionne, avec mon staff. Ce n'est pas toujours facile hein, de travailler avec moi, attention, hein. Parce que des fois c'est dur, des fois je suis pénible, des fois quand c'est pas comme je veux, je peux être très très dur, mais on sait sur quoi on se base.
Justement, Raph parlait des grands personnages que tu cites un petit peu dans ce livre, hein. On a parlé d'Arsène Wenger, d'Elson Mandela, Elon Musk, Richard Branson, c'est des personnages dont tu t'inspires. Pour aussi inspirer tes joueurs, parce qu'il y a cette phrase qui revient constamment dans le bouquin, c'est marquer l'histoire.
Moi, moi les gens qui m'inspirent, ce sont, tu sais, aujourd'hui, les gens qui m'inspirent, c'est les gens qui veulent changer le monde. C'est pas il y a des sportifs, hein, évidemment. Tu parlais d'Arsène Wenger, j'ai eu l'occasion de le croiser, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Il y a des choses qui m'ont marqué de ce personnage. Mais aujourd'hui, dans le monde du sport, bon, voilà, on fait tous un peu les mêmes choses. Alors, tu as plus d'adhésion avec un parce que tu te sens proche de lui. Tu as un peu moins d'adhésion avec l'autre parce que ça ne te correspond pas. Mais moi, ce qui me passionne aujourd'hui, ce qui me fait me lever le matin et qui est directement en lien avec marqué d'histoire, c'est les mecs qui veulent changer le monde. Il y a des mecs aujourd'hui qui veulent changer le monde. Il y a des mecs aujourd'hui, les grands personnages, tu parles de Musk, etc., les mecs qui veulent aller vivre sur je ne sais pas où, des trucs. Mais comment tu peux fonctionner comme ça? Ça me fascine, quoi. Mmh. Ça me fascine. Hein. Voilà, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de rêver, quoi. J'ai besoin de rêver, j'ai besoin de croire à des choses, j'ai besoin de faire venir les mecs avec moi. Voilà, quand, tu sais, à Oyo, quand je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, moi, je viens 3 ans, je n'avais pas du tout, c'était pas prévu que j'aille à Oyo, je viens 3 ans, mais je veux monter en top 14. J'ai cru qu'il tombait dans la chaise. Hein. Et on est monté à Oyo 3 ans après.
Et tu les as emmenés en Champions Cup.
Et on les a amenés en Champions Cup. Et on a été champions et on a perdu un quart de finale 19-20 à Toulouse. Ouais. Avec nous, tu vois. Voilà, donc, tout est possible dans la vie, à condition de… Alors, c'est les gens comme ça qui m'inspirent et j'essaie de développer avec mes joueurs cette façon de penser. Encore une fois, ce n'est pas de la prétention. Mais moi, j'ai le sentiment, tu sais ce qui m'anime, j'ai le sentiment que j'ai perdu du temps. Moi, j'ai perdu du temps. C'est-à-dire que à vouloir trop écouter, à vouloir un peu être en dedans, à être un peu dans le cadre, les machins, le truc. Et je trouve que j'ai perdu du temps. Alors, voilà, ma vie, elle est faite comme ça. Mon histoire, elle est faite comme ça. Je suis passé par des endroits un peu difficiles. J'étais plutôt dans la construction. Et ce que je ne veux pas, c'est que mes joueurs perdent du temps. Je leur dis tout le temps. Tout le temps, je leur dis. Je dis, vous êtes des mecs qui avaient réussi. Parce que les mecs qui jouent en top 14, c'est des mecs qui ont réussi. Alors, dans leur domaine. Mais c'est des mecs qui ont réussi. C'est des champions. C'est des mecs qui ont des choses à raconter, des histoires à raconter. Je dis, faites-le. Rencontrez les entreprises. Développez. Ne restez pas que le nez dans les vidéos et dans le. Faites autre chose. Allez voir. Préparez votre avenir. Et c'est ça que j'ai envie, quoi. Moi, j'aurais aimé, quand j'avais 40 ans, comme dit Christophe, il faut que tu entraînes comme ça, ça va aller vite, tu vas voir, pas ça, nan. Ben, c'est ce que j'essaie de véhiculer auprès de mes joueurs. Et je leur dis tout le temps, je ne perdais pas de temps. Aujourd'hui, tout s'ouvre pour vous, parce que c'est les garçons. de très haut niveau qui ont réussi dans leur domaine. C'est facile pour eux, mais n'attendez pas que ça s'arrête. Profitez-en. On peut faire la part des choses. Donc voilà, c'est ça qui me passionne et c'est ça que j'essaie de véhiculer auprès de mes joueurs parce qu'il y a le rugby, il y a ce qu'il faut dans le rugby, il y a l'engagement, il y a la priorité, c'est le rugby. La priorité, c'est le rugby. Mais tu as aussi le droit de préparer l'avenir en faisant du business.
Justement, Christophe, je te coupe parce que justement, tu parlais de perte de temps et que tu avais l'impression d'avoir perdu du temps. Et en fait, en un déclic, en un quart de seconde, parce que j'ai lu l'histoire, mais tu as racheté justement cette propriété, tu as mis tes frangins dessus, ta femme va bosser dessus. C'est aussi ce moment où tu te dis, en fait, ouais, le temps passe. Là, le rugby est en train de s'arrêter un temps avec le Covid. C'est aussi la capacité de se projeter parce que les rugbyman, ça dure un temps. Et comme les managers, on en a parlé encore la semaine dernière avec Jeff Dubois, c'est un métier qui est à risque aussi parce que c'est stressant, parce que c'est anxiogène et les moments sont magnifiques mais tellement énormes. Est-ce que ce passage justement du Covid, et je fais vraiment une parenthèse avec ce qu'on est en train de raconter, mais cette décision de racheter cette propriété, de te lancer dans le vin, alors même si tu avais fait des études d'œnologie, mais ça a été un déclic pour toi à ce moment-là sur la prise de conscience de la perte de temps, c'est ça?
On parle du domaine de Pépus, hein, je précise, ouais. Quand même, qui est un domaine en plus avec… une histoire bien particulière, hein, si Christophe, tu veux revenir dessus plus tard.
Et avec un objectif, et je me permets non pas de parler à ta place, Christophe, mais l'objectif d'en faire le champion du monde du vin, quoi. Donc, comme quoi, il faut avoir l'audace. Mais oui, non, mais c'est vrai, attends, on parle, donc moi, ça fait pas peur. Hein.
Et c'est la vérité. Donc, ouais. Alors, c'est vrai que bon, j'ai fait des études d'œnologie, je savais qu'un jour j'y retournerais, je savais pas trop comment, je savais pas sous quelle forme. Et effectivement, il y a eu l'histoire du Covid. Et quand tout s'est arrêté en 2020, je me suis dit, mais ouais, j'avais 2 mois devant moi. J'étais en train de regarder des choses, notamment avec Pépus. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et aujourd'hui, ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans au mois d'avril. Mais tu ne peux pas savoir comment je me réalise. Et c'est ça, d'autant plus, je dis à mes mecs, aux gars, je dis, les gars, moi, j'ai perdu du temps parce que j'aurais pu le faire il y a 20 ans. Si je l'avais fait il y a 20 ans ou 10 ans, peut-être j'en aurais 4 de château aujourd'hui. Donc, et je dis, les gars, ne perdez pas de temps. Parce qu'un jour, tu te réveilles, tu dis, putain, mais je n'aurai pas assez de jours pour faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, pour un mec ou une personne, c'est le pire de tout. Le pire de tout. C'est-à-dire que tu te réveilles ce matin, tu dis, bon, j'ai tellement de choses à faire que je n'aurai pas le temps de le faire dans ma vie, quoi. Mais c'est terrible. C'est terrible, quoi. Après, je ne me trompe pas de priorité. Hein. Ma priorité, c'est mon job. Hein. C'est mon boulot de manager. Mais aujourd'hui, dans le vin, et puis en plus, il y a du sens parce que c'est dans mon village, c'est chez moi, c'est avec mes potes, c'est mes frangins, c'est familial. Mais je me dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, quoi? Parce que ça fait plaisir à personne, quoi.
Le parallèle, moi j'ai vécu un peu la même chose au rugby où j'étais passionné de théâtre en fait et les mecs m'ont pris pour un extraterrestre que je prenais des cours de théâtre. Mais je dis, mais ça me permet de trouver en fait un équilibre entre la performance et d'avoir aussi, je ne pensais pas faire carrière après derrière, mais d'avoir une petite soupape qui te permette de te réaliser en tant qu'homme parce que tu n'es pas qu'un rugbyman, quoi. Une fois plus, ce que je te disais tout à l'heure, on n'est pas que des corps, quoi. On n'est pas qu'un ailier ou un arrière, voilà, on est un homme derrière avec des prédispositions pour d'autres activités aussi autour. Tu disais de s'entourer aussi de tous ces chefs d'entreprise qu'il y a autour du rugby, les mecs sont axés rugby et se rendent pas compte aussi le business qu'ils peuvent faire aussi à côté parce qu'ils ont peut-être pas cette culture ou peut-être qu'ils ont peut-être été déresponsabilisés aussi à un moment donné.
Ouais, puis c'est aussi la solution de facilité, d'attendre que ça se passe, quoi. Donc, c'est pour ça, moi je l'ai fait. Alors cette année on l'a pas beaucoup fait, mais tous les mois par exemple, j'ai une personnalité de Bordeaux ou d'ailleurs, hein, qui vient rencontrer les joueurs. On fait ça le lundi. Alors, ce sont des gens du monde de l'entreprise, du théâtre, de la cuisine, de la comédie, des gens qui ont réussi, qui ont vraiment réussi, et ils viennent avec nous partager une heure, tu vois. Le format, c'est très simple, hein. Ils viennent c'est le lundi à 11h30, de 11h30 à midi et quart, mais il y a un échange avec eux, ils racontent, c'est un partage d'expérience en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, comment j'ai réussi, etc. Et ensuite, le gars ou la personne mange avec les joueurs. Et pour moi, c'est une façon un peu de s'ouvrir, quoi, et de se rendre compte qu'il y a des gens, même s'ils ne soulèvent pas des haltères, ils ont réussi dans leur vie. Et on s'aperçoit aussi que c'est les mêmes leviers en fait. Dans le sport de haut niveau, le monde de l'entreprise, c'est toujours le même levier, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont acharnés, c'est des mecs qui ont envie de réussir plus que tout, c'est des mecs qui travaillent dur, c'est des mecs qui se remettent en cause, il y a énormément d'humilité, il y a aussi une prise de risque. Mais c'est la vie, ça. Mmh. Moi, pour moi, c'est la vie. Et je leur dis souvent à mes joueurs, ne perdez pas de temps et tout ça, que quand ils sont sur des doubles projets, j'adore. Et ça m'intéresse parce que je trouve que ça fait progresser l'homme. Quoi. Et quand tu progresses, quand l'homme progresse, à mon sens, ça fait un meilleur joueur de rugby.
Et alors d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le bouquin, Christophe, il y a un chapitre qui s'appelle « Avez-vous la niaque ?» avec un petit test. Pour ceux qui vont acheter le bouquin, je vous invite à le faire. Un test qui, voilà, j'en dis pas plus, ça mérite d'être fait et de se poser les bonnes questions. Christophe, on parle aussi, tu parlais de la perte de temps, mais il y a un passage dans le livre qui nous a marqué également, c'est cette crainte qui t'habite, c'est celle d'être rejeté par ton groupe un jour ou l'autre. Est-ce que tu as déjà senti ce sentiment? Est-ce que tu as déjà eu cette perception d'être éventuellement rejeté par un groupe et pourquoi cette crainte finalement?
Je ne l'ai jamais ressenti. Ça ne m'est jamais arrivé d'abord. Je n'ai jamais été viré. Donc, alors on dit que tu deviens un bon entraîneur quand tu as été viré. Donc, il reste travail à faire. Mais je n'ai jamais été viré, même si je n'ai pas été reconduit à Bourgoin, par exemple. À Bourgoin, si tu veux, je sentais bien que je n'étais pas en osmose avec les mecs, mais j'étais à côté, en fait. C'est sûr que je déteste, quoi. Moi, j'ai besoin d'être au milieu de mes joueurs, de les comprendre, de les engueuler, mais aussi de les féliciter. C'est ça qui me plaît, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît. J'ai besoin d'être au centre du truc, même si aujourd'hui, j'ai un rôle de manager, je suis un peu plus détaché, j'observe, mais j'ai besoin d'être au centre du truc avec eux parce que c'est ensemble qu'on le fait. Et c'est vrai que ma crainte, ça serait que tu te fasses rejeter par ton groupe. Ça serait pour moi la pire des choses, quoi.
J'aimerais qu'on parle aussi d'un point, parce qu'on parle beaucoup de management, hein, évidemment, dans le livre. Tu parles très, très peu des joueurs, quasiment pas d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé trace de… Mais on s'est posé la question avec Raphaël. Tu dis qu'il faut s'adapter à son environnement. Ton environnement, il est fait d'une cinquantaine ou soixantaine de personnes qui sont entre guillemets sous tes ordres, notamment les joueurs. Est-ce qu'on gère, par exemple, des joueurs comme Jalibert et Wauki, qui sont aujourd'hui, comme on dit, des top players, qui sont en équipe de France, qui font la une des magazines, comme on gère Ducoing et Dubié, qui sont des joueurs un peu atypiques, tu nous en parleras peut-être un peu plus tard, mais qui sont aussi probablement très importants dans un groupe.
Ouais, forcément, quand je parle de s'adapter à mon environnement, tu peux pas entraîner à Bordeaux comme j'entraîne à Castres ou comme j'entraîne à Oyo. C'est impossible. Impossible parce que l'environnement n'est pas du tout le même. L'environnement du stade, nos supporters, le territoire, l'histoire des clubs, la ville, la grande ville. Ça, c'est, tu ne peux pas avoir le même état d'esprit. C'est-à-dire que faire un copier-coller entre ce que je faisais à Bourgoin et ce que j'ai fait à Castres, ça ne marche pas. Ou de Castres à Bordeaux, ça ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est être capable de t'adapter vraiment. Et c'est ça que pour moi, c'est ça le vrai entraîneur. L'entraîneur qui a des préceptes, qui connaît son rugby parfaitement, qui veut imposer son rugby partout, ce n'est pas ma façon de voir mon boulot. Ce n'est pas ma façon de voir mon boulot. Tu sais, quand je suis parti de Castres, quand je suis venu à Bordeaux, j'ai la première chose que j'ai dit, et aujourd'hui, je mesure le risque.
L'impact.
Quoi. Ouais, non, le risque. C'est-à-dire que j'ai dit, je vais à Bordeaux et il va falloir que je plaise et que je gagne. C'est pas toujours évident, hein, de plaire et de gagner. Surtout
il y avait beaucoup de scepticisme, hein, d'ailleurs, hein, dans les observateurs.
Bien sûr, bien sûr. Mais encore une fois, les gens qui pensaient que je n'étais pas capable ou que j'allais faire du Castres bis, mais c'est des gens qui ne comprennent rien, quoi. C'est des gens qui ne me connaissent pas. Comment j'aurais pu faire ça quand j'arrive à Bordeaux? Quand j'ai dans ma ligne de trois quarts des Mathieu Jalibert, des Semi Radradra, des Santi Cordero, pour ne citer que les plus grands, quoi, en termes
les
de.
Les plus connus.
Ouais. Connus, pardon. Mais j'aurais été fou, quoi. J'aurais été fou. Donc moi, tu comprends bien que je l'entendais, ou qu'on me le rapportait, ou je sentais ces discussions, mais ça me faisait rire. Ça me faisait rire au fond de moi. Je dis, vous allez voir. Mais vous allez voir. Et c'est. Donc voilà, mais bon, ça, c'est la connerie humaine, à mon sens. Et c'est parce que c'est des gens qui ne connaissent pas le métier, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est ma grande force. Et je savais que ça marcherait comme ça. Je savais que ça marcherait comme ça. Alors, pour revenir à ta question de départ, c'est-à-dire, est-ce que tu manages de la même façon un joueur qui est en équipe de France ou ailleurs et un jeune mec? Pour moi, il y a les fondamentaux qui sont les mêmes. Après, évidemment, que tu t'adaptes. Pour moi, ce qui est important, c'est de tirer le meilleur de chaque joueur, le meilleur de chaque personne. Donc, évidemment que les fondamentaux, ça va être tu t'entraînes dur, tu joues sous tes qualités, tu respectes le groupe, etc. C'est des choses qui sont les mêmes partout. Moi, si tu rates un plaquage, que tu t'appelles Mathieu Jalibert ou Matteo Garcia, c'est la même chose pour moi. Hein. C'est la même chose. Après, effectivement, je prends en compte aussi la particularité de ces jeunes mecs qui sont à un certain niveau et je les accompagne davantage parce que s'il y a une part d'éducation, d'éducation sportive notamment parce que ils découvrent des choses que moi je connais pas d'ailleurs. Donc il faut de temps en temps les remettre un peu remettre de l'ordre quoi. Donc c'est important. C'est important. Toi,
mais non, justement, tu dis remettre de l'ordre. Je pense qu'Arnaud va y venir, justement, parce qu'il y a eu un recadrage qui a été assez intéressant. Je te laisse y venir, Arnaud.
Oui, ça nous a marqué avec Raph. Tout de suite, on s'est appelé parce qu'on va faire un petit flashback. On est en avril 2021. L'UBB se fait écraser, broyer. Ce sont tes mots dans le livre, Christophe, par La Rochelle. Bon, défaite 26-11. Donc, on connaît bien pire quand même comme broyage, mais résultat, tu hausses le ton, tu décides de poser ce que tu appelles un cadre inconfortable. Et là, dans le livre, on le voit parce qu'en plus, c'est un schéma, donc c'est très abordable. C'est-à-dire que même pour un petit journaliste du middle, pour moi, c'est très facilement compréhensible. Les nouvelles règles, priorité le top 6, et les nouvelles règles, c'est pas de programmation, pas de musique, pas de laverie, pas de collation, pas de bouffonnade. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce joli programme, Christophe?
Bon, après, bon, voilà, ça fait partie des choses qui me caractérisent. À un moment donné, j'aime mes joueurs, moi. Franchement, j'aime mes joueurs. Je les respecte, j'aime mes joueurs parce qu'il faut un métier fantastique, mais qui n'est pas facile quand même. Hein. Le très haut niveau, ce n'est pas évident. Donc, j'aime mes joueurs, mais par contre, je ne leur passe rien. Je ne leur passe rien parce qu'on décide les choses ensemble. Et à un moment donné, quand tu sors du cadre, mais moi, je vais te remettre dans le cadre. Alors, je vais te mettre dans un premier temps avec des mots tranquilles. Puis, si on continue à sortir du cadre, je vais monter le ton quand même, tu vois. Et je vais changer même. Et tu fais référence à ce fameux match contre La Rochelle. Alors, c'est vrai qu'on avait perdu 26-11, mais on s'était fait écraser chez nous. Hein. C'était chez nous. Hein.
Ouais.
Donc, tu vois, on avait beaucoup d'ambition et les mecs, ils nous ont écrasés. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait péter mentalement. On ne savait plus comment s'y prendre. Ils nous avaient fait sauter mentalement. Et ça, c'est ce que je déteste dans le rugby. Quoi. Tu peux perdre les matchs, tu peux perdre contre une équipe plus forte que toi, mais tu n'as pas le droit de lâcher. Quoi. Donc, donc, il faut le remettre dans le contexte et en perspective parce que c'était fin mars de mémoire. Et on arrivait sur ce mois d'avril. Et sur ce mois d'avril, dès que je suis arrivé à Bordeaux, on disait, ouais, à Bordeaux, le mois d'avril, c'est pas fait pour nous. Les mecs préfèrent aller à la plage. Les mecs sont plus concentrés sur faire du paddle ou du surf ou aller manger des huîtres. Et j'entendais ça depuis que je suis arrivé, c'est-à-dire 2 ans avant. Et là, quand on se fait écraser, on était plutôt bien placé, tu vois, et quand on se fait écraser par La Rochelle, hop, j'entends des Rolands de... Et allez, le mois d'avril. Et là, mon sang, il n'a fait qu'un tour. Je passe mon week-end, évidemment, on joue le samedi, je ne sais plus, samedi. Je passe mon dimanche à comprendre pourquoi on avait fait ça. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on avait fait ça. On avait fait une superbe semaine, hein, on était prêts. Il me semblait qu'on était prêts. Et on s'est couché devant La Rochelle. Donc là, je dis, mais ce n'est pas possible. Il faut que je comprenne les choses. Quoi. Et là, je lis un bouquin, dans le week-end, pareil, comme vous, Charles Pépin, un philosophe qui parle de l'erreur, l'échec. Et en fait, il dit, une théorie, il dit, quand tu fonctionnes avec les groupes, si tu fonctionnes toujours de la même façon, tu vas avoir des coups de sang, le groupe va réagir, puis hop, ça va repartir, puis tu peux avoir une autre connerie de fête, puis ça va repartir. Ou alors, tu as la deuxième option qui veut dire il faut changer ton comportement. Parce que tu ne sais pas, tu sais pas si le groupe n'aura pas les mêmes conneries plus tard. Et moi, je sentais bien qu'entre ce mois d'avril, ce machin, ce truc, je dis, il fallait que je change d'attitude. Il ne m'avait jamais vu comme ça. Il fallait que je change d'attitude. Il fallait qu'il comprenne que la croyance du mois d'avril, c'était une blague, une connerie, et que ça dépendait de nous si on voulait se qualifier. Et que ça se jouait sur le mois d'avril, et que pour moi, la priorité, ce n'était pas le surf, ce n'était pas manger des huîtres ou des cannelés, même si j'adore ça, attention. Hein. Mais c'était être dans le top 6. C'était notre obsession. Donc, il fallait que je change. Donc, et c'est pour ça que je leur dis, les gars, bon, je te fais un raccourci parce que la réunion était un peu plus longue. Hein. Et sur un autre ton. Et je leur dis, les gars, à partir de maintenant, donc on fait une petite vidéo, je les fais participer parce que je fais toujours participer mes joueurs au ressenti d'une grande contre-performance. Et je leur dis, voilà, maintenant, la priorité, puisque c'est notre priorité du top 6, la priorité du top 6, je vais mettre des nouvelles règles. Je vais mettre des nouvelles règles. Voilà. Je voulais qu'ils comprennent que ce n'était pas possible ce qu'on a fait, ce n'était pas possible. Ça dépassait le cadre de perdre un match, tu vois, pour moi. Et d'autant plus, derrière, avec ce mois d'avril, quoi. Je dis, ce n'est pas possible qu'ils comprennent, quoi. Et voilà, donc j'ai mis ces nouvelles règles. Alors, effectivement, pas de programmation, parce que moi, j'ai besoin de. J'aime quand mes joueurs sachent exactement comment ça va se passer là, à 15 jours, enfin même à l'année. Hein, quand je démarre la saison, on sait exactement comment ça va se passer l'année. Alors après, bon, évidemment, depuis 2 ans et demi, on fait que s'adapter en permanence. Mais les mecs, voilà, on sait comment ça va se passer. Parce qu'il y a des joueurs bah, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont besoin de savoir à quel moment on va avoir les vacances, combien de temps, etc. Ça, c'est la première chose. Je le dis, les gars, la priorité, c'est le top 6. Donc, la programmation, zéro programmation. On s'entraîne et je vous dirai le lendemain ce qu'on va faire. Mettez en priorité le rugby. Ça, c'est important. La deuxième chose, je ne sais plus si c'est dans l'ordre, hein, pas de musique.
Ouais.
Ah, pas de musique. Quoi. J'ai dit, bon, là, maintenant, je vais entendre les barres à claquer à muscu.
C'est exactement ce qui est écrit dans le livre.
Ouais, c'est exactement ce que j'aurais dit. J'ai dit, je vais entendre les barres à claquer. Donc, pas de musique. Pas de musique. Ça les a un peu fait chier, tu vois. Ça les a un peu fait chier parce que. Ben parce que c'est aussi motivant, tu vois, quand tu travailles dur. J'ai dit, mais je n'ai rien à foutre, je veux. Mais pas de musique, ni dans les vestiaires, ni nulle part. Hein. Donc il y avait ça, ensuite il devait y avoir la laverie, c'est ça, non ?
Ouais, pas de laverie.
Ça m'a intrigué, ça, laverie.
Alors la laverie, c'est terrible. C'est terrible. La laverie, en fait, si tu veux, c'est. Tu sais bien que les joueurs, ils arrivent, ils viennent avec leur brosse à dents. Ils ont leurs affaires, on leur lave. Nous avons des intendants, ils lavent les affaires, etc. Donc, ils s'entraînent le matin, on leur lave les affaires, ils ont les affaires l'après-midi, et ainsi de suite. Et je leur dis, les gars, pas de laverie. Vous allez voir qu'on va revenir un peu à l'ancien temps, qu'à un moment donné, il faut se prendre en charge, on n'attend pas que tout se passe. Quoi.
Vous n'avez pas connu ça, vous, quand vous étiez joueurs tous les deux hein.
Non, c'est pour ça que moi, ça m'intriguait, la laverie. Non, que dalle. Moi, c'est Marlou qui était au stade français, mais il floquait les maillots, c'est tout. Pour le reste, tu venais avec tes trucs et puis s'appuyer au bout de 5 jours. Quoi. C'est clair que. Hein.
Et là, je ne dis pas de laverie. Je dis, vous allez voir vos femmes, c'est vos femmes qui vont vous engueuler. Parce que vos femmes vont se taper le truc à laver et ce n'est pas agréable. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et alors, après, effectivement, comme tu as dit, je ne veux pas avoir un truc pourri qui pue. Ce n'est pas une excuse. Vous démerdez. Hein. Ça les a fait rire jaune, tu vois. Après, il y avait la quatrième règle.
Pas de collation.
Ouais, pas de collation, ouais, parce que nous avons notre
cuisson. Privé de dessert.
Voilà, exactement. Après les grosses journées de boulot, on a notre cuistot qui attendait les joueurs, il attendait 16h à 16h30, il faisait des omelettes, tout ça. Ben, les mecs, je veux dire, ils étaient dans le truc. Je dis, bon, là, pas de collation, on ne va pas faire chier Jean. On va pas faire Jean-Michel, il ne va pas passer son temps à attendre que vous fassiez l'entraînement pour venir manger les omelettes avec la merde qu'on a fait ce week-end. Donc, pas de collation, vous vous débrouillez. Et le dernier point, c'était.
Pas de bouffonnade.
Les bouffonnades.
On va en parler.
Mais d'ailleurs, l'année dernière, quand je t'ai reçu, il y a 2 ans, quand c'était à l'arrivée du Covid, on avait fait une émission ensemble tous les deux. Et j'avais dit justement, en parlant de Nance du Coin, qu'il était un peu le bouffon de la bande, en parlant en bon terme, tu vois, le bon con et le bon mec qui est bon sur le terrain. Et tu t'étais un petit peu vexé d'ailleurs sur le côté bouffonnade. Et force est de constater que j'ai vu dans le bouquin que tu t'es un peu.
Moi ça me fait rire, hein.
Ouais.
Ça me fait rire, mais je trouve parce qu'après on a un groupe qui est fantastique, hein. Humainement on a un groupe qui est d'une qualité humaine incroyable Mais des fois, il déconne, quoi, tu vois, comme, des fois, il faut la performance du top 14, c'est très long et tu peux t'endormir, tu peux oublier. Donc, il faut de temps en temps leur remettre les idées en place. Tu vois. Et ils ont pour habitude, ils vivent tellement bien, ils fonctionnent tellement bien qu'une fois par semaine, ils vont faire un repas à thème, tu vois, notamment les célibataires, enfin, les gars un peu seuls, etc. Donc, ils sont une quinzaine, ils vont faire leur repas. Alors, et là, cette fameuse, ça m'avait marqué parce que cette fameuse semaine, alors quand ils font ces repas comme ça, ils ont un thème, ils se déguisent dans le thème. Donc, ils vont manger en ville. Et là, cette fois-là, c'était la mafia italienne. Alors, ils étaient allés manger en ville avec des cols, des trucs, des chapeaux. Et alors, évidemment, que, bon, ils passent du super. C'est pas une beuverie, hein, ils font juste un repas. Hein, mais ils passent du bon temps. Alors, les photos, les réseaux sociaux, etc. Et là, j'ai dit, bon, les gars, mais vous vous rendez compte qu'on parle de mafia italienne. La mafia italienne, c'est pas des rigolos, les gars. Hein, enfin, je suppose. Et nous, on fait les cons en mafia italienne et on s'écrase contre La Rochelle, qui est notre ennemi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je dis, à partir de maintenant, je veux plus ça. Donc, plus de bouffonnade. Si vous le faites, hein, sachez que je sois. Faites en sorte que je ne sois pas au courant. Hein, parce que ça va barder. Quoi. Donc, voilà. Donc, si tu veux, l'idée, c'est de dire, ah, les gars, on s'est emmerdé sur le match de La Rochelle. On n'a pas été à la hauteur contre La Rochelle. On a besoin de réagir vite. Hein. Le mois d'avril est important. On a besoin de remettre un cadre pour que la priorité, qu'on ait tous en tête, la priorité de notre. Pourquoi on est ici. Donc, voilà. Et j'ai dit, quand on aura fini le mois d'avril, mais je mettrai les règles du mois de mai. Et ainsi de suite. Hein. Alors, ça, elles peuvent être au mois de mai, elles peuvent être allégées. C'est un peu comme le. Comment dire, comme nos politiques avec le Covid, tu vois. De temps en temps, les règles, puis ça change, puis ça. Et moi, je faisais pareil. Donc, au mois de mai, j'ai changé un peu des règles. J'ai rajouté la laverie parce qu'on avait fait un bon mois d'avril. Donc, j'ai rajouté la laverie, j'ai rajouté la collation. Je dis, pas de musique, toujours pas de musique. Pas de musique. Bon, faites taper les barres, hein, pas de musique. Hein. Là, ils avaient des boules parce qu'ils me disaient, mais le jeudi, j'ai dit, non, pas de musique. Hein. Et après, petit à petit, j'ai rajouté la musique. Bon, voilà. C'est des jeux, hein, mais c'est une façon aussi de leur faire comprendre qu'à un moment donné, quand tu veux arriver au plus haut niveau, il ne s'agit pas de le dire, il faut le faire.
Et tu parlais, je veux juste pour la bouffonnade, parce que tu sais que je suis assez friand de ça, hein, c'est peut-être ce qui m'a coûté ma carrière, hein, bien entendu. Je t'avais envoyé mon bouquin, je pense que tu as dû jeter un œil. Et, voilà. Mais par rapport à la bouffonnade, est-ce que tu n'avais pas envie à un moment donné, est-ce que tu ne dois pas être trop sur les réseaux sociaux, tu ne pourras pas voir tout ce qui se fait, mais tu n'as pas envie de te créer un compte, en fait, pour vraiment aller dépister un peu les mecs, parce que ça fait marrer quand même, les mecs sont bons, non?
Jamais.
Je parle pas de flicage hein, du tout. Hein,
mais j'ai des comptes, mais je m'en sers pas. Moi, c'est pas pour moi. Alors, effectivement, ils sont marrants parce qu'ils sont marrants. Tu vois, des garçons comme Nance, JB, par exemple, pour ne pas les nommer, mais il y en a d'autres. Hein. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Mais tout le temps. Mais tout le temps. Tout le temps. Dans la vie de tous les jours, tout le temps. En train de déconner. Alors, c'était ça aussi ce que je leur ai dit, oh, les gars, arrêtez avec ça. Hein. Arrêtez avec ça. Donc,
mais
excuse-moi, mais tu sais ce que je leur ai dit après ce match de La Rochelle hein. J'aurais dit une chose importante. J'aurais dit, vous savez, les gars, j'aimerais juste, ou il me tarde le temps où je ne serai plus votre coach et je serai votre pote. Et là, je vais rigoler avec vous. Mais aujourd'hui, votre manager. C'est fini. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'aimerais ne pas être, parfois, j'aimerais ne pas être leur manager pour être leur pote. Parce qu'ils sont marrants, quoi. Ils sont marrants, ils sont bons, ils sont bienveillants, ils sont incroyables. Hein. Ils sont incroyables. Je ne parle pas que de JB et de Nance, c'est le groupe en général, quoi, tu vois. Mais sauf que moi, je suis leur manager et on veut gagner les titres. Hein.
Alors, par rapport à ça, Christophe, est-ce que du coup, tu es obligé d'avoir un petit peu d'autodérision aussi, même si on sait que tu as beaucoup d'humour, mais j'imagine qu'ils ne doivent pas te louper non plus de temps en temps.
Non, mais ça me fait rire.
Il y a une imitation qui est quand même assez magique de Nance Ducoing avec Benjamin Kaiser sur une émission. Il t'imite en numéro 1, Christophe Furios, numéro 2, Christophe Furios, numéro 3. Elle est quand même assez magique, quand même, ça. Il faut voir l'autodérision, parce que là, sinon, tu pars en sucette.
Ouais. Ils me font rire, moi. D'ailleurs, souvent, je rigole avec eux. Je les taquine, quoi. Moi, j'adore ça. Même si. Quand on ne me connaît pas, ce n'est pas la première chose qu'on s'imagine de moi. Hein. Mais j'adore faire ça. Moi, au milieu des joueurs, je les taquine, je les branche, je leur file des pets. Quand je suis comme ça, est-ce que ça va bien ? C'est qu'on est dans la bonne direction. Quand je ne suis pas comme ça, attention, gars, attention, parce que ça va pas bien.
on va parler un petit peu aussi, Christophe, de cette défaite en demi-finale de Top 14 contre Toulouse. Parce qu'il y a quand même ce rugby toujours en toile de fond, hein, dans le livre, où après cette défaite, tu as demandé à tes joueurs ce qu'ils attendaient, notamment de la part du staff. Il y a trois points qui sont ressortis. Plus d'écoute, plus de disponibilité et casser les routines. Donc ça, on rappelle, hein, on était au mois de juin 2021. Qu'est-ce que tu as changé aujourd'hui pour expliquer ces résultats ? Aujourd'hui, on ne va pas dire que Bordeaux marche sur le top 14, mais en tout cas, il n'y a pas grand monde qui vient vous chatouiller quand même.
Je le dis tout le temps, ça, toutes les fins de saison, parce que c'est important. Tu sais, quand je suis arrivé la première fois à Bordeaux, je leur ai demandé, vous attendez quoi du staff en fait ? Parce que, tu sais... C'est marrant parce que je ne l'avais pas fait à Castres, ça, tu vois. À Castres, je connaissais un peu les joueurs, je connaissais l'environnement. Là, je ne les connaissais pas du tout. Je connaissais peu de joueurs. J'avais entraîné juste Mamad Diaby. Je ne connaissais pas les autres, ou très peu. Donc, c'était un groupe qui était très jeune. Et j'avais posé la question, qu'est-ce que vous attendez du staff, en fait ? C'est quoi, vous, qu'est-ce que vous attendez du staff ? Donc, ils avaient réfléchi, ils avaient fait remonter les informations, et puis nous, on s'est tenu à carreau. Et là, quand on a fini la saison, effectivement, comme souvent, quand on fait des bilans, je dis, voilà, qu'est-ce que, encore une fois, donc, au-delà du bilan, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on améliore et qu'est-ce qu'on change, il y avait aussi, qu'est-ce que vous attendez du staff, quoi, toujours. Et après, évidemment, que quand ils ont des demandes comme ça, quand je leur pose la question, s'ils me font remonter les informations, moi, il faut que je le mette en place très vite, quoi. Très vite. Donc, et c'est comme ça que tu crées de la confiance. Je pose la question à mes joueurs, réfléchissez à ça. Ils réfléchissent, ils me font remonter les informations. Si moi, je crois que ce qu'ils me font remonter va nous faire avancer, je le fais de suite. Si j'y crois pas, ben j'échange avec eux. Je prends en compte ma façon de penser, tu vois. Mais si je crois aux choses qui me font remonter, je le mets de suite en place. Donc, bon, il y a pas mal de choses qu'on a fait évoluer. Donc, il y a toute la partie médicale, la semaine du blessé. Donc voilà, tout ça fait que sur les routines, on essaye de travailler. On essaye quand même de les faire évoluer en permanence, quoi. Donc, de changer les semaines, de changer... Voilà, on essaye de... Parce que c'est un groupe jeune. Et les jeunes, enfin, vous le savez aussi bien que moi, ils ont besoin que ça aille vite, de passer d'un truc à l'autre. Donc, il faut que je m'adapte, quoi.
Pour rebondir à ça, Christophe, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Tu dis dans le bouquin, par exemple, que tu as pris le parti de changer les citations qui étaient sur les murs. Je dis bien, je me fais l'avocat du diable parce que certains pensent que ça, c'est purement marketing. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que réellement, ce genre de changement d'évolution peut avoir un impact sur l'état d'esprit d'un groupe, sur la routine du groupe ? Est-ce que c'est purement merchandising, entre guillemets ?
Moi, je ne fais pas dans mon métier de rugby, dans mon métier du vin, je fais du merchandising et je fais du marketing. Ça me plaît d'ailleurs. Mais quand je suis avec mes joueurs, je ne fais pas du marketing. Moi, dans tous les endroits stratégiques de notre fonctionnement, il y a des citations qui doivent nous inspirer, en fait. Et effectivement, on avait fait 2 ans, on avait fait 2 belles saisons. Pour passer sur les 2 autres qui arrivaient, j'avais besoin de faire un peu évoluer amener des signes nouveaux, en fait, quoi, amener un peu de la nouveauté, en fait. Et ça commence par ces citations où moi, j'y reviens souvent, hein, j'y reviens souvent sur ces citations. Donc, certains peuvent penser que c'est de la poudre aux yeux. Moi, je pense que c'est le cœur du réacteur.
Et puis, sur le côté marketing, ce serait marketing. C'est comme les grandes valeurs du rugby qu'on scande quand il y a les grands moments sportifs, mais si elles ne sont pas incarnées. Or, là, il y a des résultats. Donc, force est de constater que tu peux en faire du marketing. Si, et ce que je disais en préambule sur moi, ce que je vivais aussi, alors pour faire le parallèle à ce que j'ai vécu, les mots étaient magnifiques, hein. Mais je me comportais comme un connard. Je faisais des conférences en entreprise, mais je me comportais comme un connard avec ma femme à domicile. Donc, le grand écart, il fait mal. Ça peut être très beau,
sur le plan marketing pour vendre des trucs et vendre des valeurs. Mais si tu n'es pas incarné au quotidien pour avoir les résultats comme Christophe peut les avoir aujourd'hui avec Bordeaux, c'est de la branlette philosophique et c'est de la branlette marketing. Donc, je pense que tu ne peux pas, soit, et tu le dis, tu as le pinard d'un côté, là, tu as du marketing, et de l'autre, tu as le rugby, où si ce n'est pas incarné, de toute façon, ça se ressent. Je pense que c'est au bout d'un moment, le côté imposteur peut vite se ressentir.
C'est le principe de l'authenticité. Ouais. C'est le principe de l'authenticité. L'authenticité, c'est quoi ? C'est d'être aligné à ce que tu dis et ce que tu fais. C'est aussi simple que ça. Et en toutes circonstances. En toutes circonstances, du 1er janvier au 31 décembre. Tout le temps. C'est ça, la difficulté. Et moi, j'ai connu des entraîneurs qui évoluaient souvent selon les résultats. Tu vois, ça marchait bien, c'était ton pote, ça ne marchait pas bien, il te crevait, quoi. Alors évidemment, quand ça marche bien, tu es un peu content. Quand ça marche un peu moins bien, tu montres que tu es un peu moins content. Mais surtout, ce qui est important, c'est essentiel pour moi, c'est quand je parle de vision, la vision, c'est le projet que l'on définit ensemble avec les joueurs et le staff. C'est-à-dire qu'on va parler de la raison d'être, on va parler de nos valeurs. Moi, j'entends dire que les valeurs du rugby, elles disparaissent. Chez moi, elles ne disparaissent pas. Moi, chez moi, elles ne disparaissent pas. Je suis désolé, chez moi, ils ne disparaissent pas. Donc, et dans mon groupe, ils ne disparaissent pas. Donc, on en parle, on les met en place. Mais quand on fait des bilans étapes, je fais des bilans étapes, c'est tous les 5-6 matchs, on fait des bilans étapes. Mais dans nos valeurs, il y a toujours des références à la valeur. C'est-à-dire que telle valeur correspond à telle chose. Et ce sont des choses qui sont mesurables. Sinon, c'est difficile de le contrôler. Mais quand on fait le bilan étape, ben on parle de est-ce qu'on a rempli la vision ? Est-ce que la vision, on est en accord avec ça ? C'est-à-dire que, je ne sais rien, je veux dire, la valeur du travail correspond à ça. Est-ce qu'on l'a fait ? Est-ce qu'on l'a bien fait ? Oui, on l'a fait. Non, on ne l'a pas fait. Si on ne l'a pas fait, on a marché sur la valeur. Attention, pas deux fois. Donc, c'est ça, être aligné. Mais ce n'est pas une vision de l'esprit de Christophe Furios, hein. C'est une volonté de tout le monde. Donc, quand on se réunit tout au long de la pré-saison, on parle de nos valeurs, par exemple, on échange sur nos valeurs, on a 4 valeurs qui sont importantes. Derrière, il y a à chaque 4 valeurs, il y a 3 références. Mais on les construit avec les mecs, on les construit avec le staff. Donc, on est 70, 75 à parler de ça. Et on n'est pas tous d'accord, parce qu'on ne peut pas être tous d'accord. Mais on se rallie au plus grand nombre. Donc, si tu n'es pas d'accord avec une valeur, dis-le. Dis-le, argumente, essaye de faire passer des messages, essaye de rallier des mecs avec toi, et sinon, tu la fermes et tu suis le groupe.
Christophe, on va aborder la troisième partie de cette émission, troisième et dernière partie, parce qu'on est déjà très long, et c'est la fin
non,
du
pas
livre
assez long,
où,
pas assez long.
Où il est beaucoup question de l'échec. Il y a 2 chapitres en fin de bouquin qui s'intitulent « Comment réussir ses échecs ?» et « Pourquoi l'échec est-il tabou ?» Et le point de départ, Christophe, c'est ce qui m'a marqué, c'est que c'est cette demi-finale de top 14 perdue contre le Stade Toulouse. Pourquoi ?
Si tu veux, la défaite contre le Stade Toulousain en demi-finale, ce n'est pas un échec. Hein. Pas du tout, d'ailleurs. C'était plutôt un très grand match, même si, encore aujourd'hui, je considère que ce jour-là, la meilleure équipe avait gagné.
Tu le dis dans le bouquin, hein, d'ailleurs. Tu l'avais dit le soir même, d'ailleurs.
Oui, je l'ai dit le soir même, je l'ai redit quand on a refait le bouquin, je peux le redire encore aujourd'hui. Le sentiment que ce jour-là, on avait les dieux du rugby n'étaient pas avec nous. Alors, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc, tu vois, mais pour être champion, il faut tout avec toi. Tout avec toi. Donc, là, on n'est pas. Donc, on s'était servi un peu de ça pour parler un peu de l'échec, parce que je trouve que l'échec, en fait, moi, pour moi, l'échec, c'est un apprentissage. Moi, je n'ai pas peur de l'échec. D'ailleurs, tout ce que je fais, je n'ai pas peur de l'échec. Je sais que ça, quand je démarre quelque chose, je ne vais pas me planter. Et si je dois me planter, ben, je suis capable de l'analyser, de le comprendre, de chercher les évolutions qui vont me faire de réussir et de repartir au combat. Donc moi, l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, de l'avancée, de la vie. Il y a tellement de gens qui ne font pas des choses parce que si je ne fais pas ça, comment ça va se passer ? Si je fais ça, comment ça va se passer ? Tu sais, je suis parti de Castres. En 2018, je suis parti de Castres en 2018 parce que j'avais fait le tour de Castres. J'avais le sentiment que je ne progresserais plus. Donc, je choisis de partir de Castres. Il me restait un an de contrat, qui a été une année longue. Mais en juillet 2018, donc un an avant, je dis à mon président, ça a duré depuis 6 mois déjà. Donc, mon président, il vient me voir un jour au bureau, il me dit, Christophe, c'est maintenant oui ou c'est non ? J'ai dit, écoutez, si vous voulez la réponse maintenant, ce sera non. mais j'avais rien, j'avais aucune alternative. C'est-à-dire que moi, mes gars qui bossent pour moi, sont pas en train de se dire on va aller là, on va aller là. Non, j'avais rien. J'avais rien. C'est-à-dire que je dis non, je ne resterai pas à Castres. Pourtant, j'avais le contrat sous les yeux, qui, bon, à notre niveau, quand même, c'est des contrats. Tu le regardes quand même, tu vois, c'est des contrats. Et j'ai la famille, j'ai des. Et je pars pour rien. Donc, mais je savais que je rebondirais quelque part. Je ne savais pas où, je ne savais pas comment, mais là, ce que je savais. Personnellement, ce que je savais qui était important pour moi, c'est que je n'avais pas envie de rester à Castres parce que j'avais l'impression de ne pas, de pas me réaliser, quoi. Donc, je décide de partir. Donc, je n'ai pas peur de lui, mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu peux peut-être aller au chômage. Ben, c'est la vie. À un moment donné, il faut être, prendre des risques, quoi. Donc voilà. Donc, moi, je n'ai pas peur de l'échec. Je n'ai pas peur. Je crois que ça fait partie de mon évolution. C'est à travers les échecs ou les points de passage qui sont difficiles que tu progresses. Tu sais, si je n'ai pas cet état d'esprit après le match de La Rochelle, je ne suis pas sûr qu'on fasse une demi-finale. Hein. Je ne suis pas sûr. Donc, à un moment donné, donc voilà, donc je trouve qu'en France, c'est vrai que c'est tabou. Parce que pourquoi c'est tabou? Parce qu'on attaque les personnes, en fait. Ah, il s'est planté, c'est un con, il n'est pas bon, il n'est pas malin. Mais ça fait partie de notre apprentissage.
C'est très français aussi quand même, parce qu'aux États-Unis, ça fait partie de la construction d'un businessman, de pouvoir se planter. D'ailleurs, les mecs regardent le CV en disant ah, « tu t'es planté plusieurs fois, ça m'intéresse ». Alors qu'en France, c'est ce que vivent les managers, ce que vivent les sportifs. Tu es mis sur un piédestal et du jour au lendemain, tu te fais défoncer. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de vulnérabilité, il n'y a pas le droit à l'échec. Et c'est ça qui est, et c'est un petit peu français, je trouve. Je trouve que c'est un petit peu français, cette culture de « on est les meilleurs, on est les plus grands, on est les plus forts ». Puis dès que tu commences à gratter un petit peu, ben, tu te rends compte qu'en fait, non, c'est un petit peu différent, l'histoire. Et je trouve que c'est assez couillu, justement, et je trouve ça courageux de pouvoir parler d'échec et de vulnérabilité pour ce que tu représentes aussi, Christophe, physiquement, de cette posture de manager, de parler de l'échec. Je trouve ça courageux dans un monde patriarcal, masculin, rugby, au-delà du rugby, sociétal et français, de parler de l'échec. Alors, par contre, pas deux fois, comme tu l'as dit, hein, apprendre de ses erreurs, mais c'est courageux d'en parler, quoi. C'est important, je pense.
Moi, je considère vraiment que ça fait partie des avancées. Après, il faut bien le solder, voilà. Il faut le solder. Ouais. Comment tu le soldes? Regarde la vérité en face, sur quoi tu peux t'améliorer, qu'est-ce que tu as besoin de faire, et puis repartir au combat.
Christophe, puisqu'on parle d'échec, ce serait quoi l'échec de Christophe Furios sur cette saison 2021-2022?
Ne pas se qualifier.
Ce serait pas ne pas aller jusqu'en finale? On dit toujours que l'objectif de l'année suivante est toujours de faire un peu mieux.
Ouais, mais tu... Oh, mec.
Ouais, t'es dans un top 14 quand même qui...
Puis bon, je rappelle, encore une fois, hein, Bordeaux s'est qualifié que l'année dernière. On est un club qui travaillait très bien. Le président Marty fait un boulot incroyable pour ce club depuis de nombreuses années maintenant. Mais on avance, quoi. On n'a pas le plus gros budget, on n'a pas les plus gros joueurs. Donc aujourd'hui, on fait une saison. Après avoir fait les deux saisons qu'on a faites, on fait une saison pour le moment incroyable. Mais c'est très fragile, quoi. Très fragile. Donc restons calmes, travaillons. Après, on a évidemment l'ambition d'être qualifié le plus haut possible. Et puis après, on a envie d'aller en finale, on a envie d'être champion comme les autres. Mais on sait qu'il y a des points de passage, quoi.
Mais marquer l'histoire, ce serait terminer par exemple leader de cette phase préliminaire et peut-être d'aller chercher un titre.
Marquer l'histoire, c'est prendre des titres. Marquer l'histoire, c'est prendre un titre, c'est travailler sur la structuration. C'est, tu sais, je suis parti d'Oyo. Arsène Wenger, il disait, quand j'avais discuté avec lui, il dit, tu sais, Christophe, ce qui est important, c'est, il y a les titres, évidemment, mais ce qui est important, c'est de marquer les clubs. Et tu marques les clubs sur les structurations, sur les évolutions du club. Et il me disait, quand tu prends la voiture que tu auras dans le rétroviseur, tu te rends compte de tout ce que tu as fait. Et c'est ça aussi, marquer l'histoire d'un club. Quand je suis parti d'Oyo, quand je regardais dans le rétroviseur, j'avais marqué l'histoire du club. En toute simplicité, c'est pas. Mais moi et les autres, quand je suis parti de Castres, ben, j'ai fait partie de ceux qui avaient marqué aussi l'histoire du club. Donc, et j'entends de faire la même chose à Bordeaux.
On touche à la fin, messieurs. On a fait quasiment une heure. On a un peu débordé sur les délais. Je laisse le mot de la fin à Raph. Je crois qu'il avait besoin de conseils, il me semble.
Ouais, bah ouais, carrément, mais comme le bouquin, je pense que je vais le relire aussi parce que j'ai dû me le bouffer en un week-end et c'était pas du tout une obligation, mais waouh, j'avais la tête comme ça. Mais je suis conférencier dans le monde de l'entreprise, j'en ai fait à peu près une centaine depuis quelques années maintenant, donc je tente en fait, avec mes connaissances, mes expériences, de trouver les parallèles entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. On en a un petit peu parlé pendant l'émission, moi ma question c'était comment tu arrives à. Je sais que tu fais des conférences en entreprise, donc on a parlé que tu étais chef d'entreprise, notamment tu avais repris le domaine de Pépus, et de savoir. Comment tu arrives à inspirer les entreprises dans lesquelles tu interviens?
On s'aperçoit quand même qu'il y a des liens qui sont, enfin tu le sais, qui sont assez proches pour l'entreprise et pour le monde du sport. C'est-à-dire que, en termes de management notamment, quoi. En termes de management, il faut créer une équipe, créer un groupe, il faut développer tes employés ou tes joueurs, il faut les rendre meilleurs, il faut arriver à créer cette solidarité qui te permet d'avancer. Après les échecs, il faut repartir, après les matchs, il faut repartir. Et je crois que quand je leur parle, et notamment nous, de la façon dont on fonctionne, le management, de la façon dont on séquence notre saison, de la façon dont on est précis dans le fonctionnement de ce qu'on attend d'eux, ils sont assez surpris parce qu'ils se rendent pas compte que dans le monde du sport, on parle d'objectifs, on parle de suivi, on parle de data, on parle de et c'est ça qui les impressionne assez avec cette précision et aussi cette rigueur. Moi, je fais par exemple tous les lundis matin, je fais 10 entretiens par lundi matin. Eux, tu vois, ils en font un par an, quoi. Donc, et c'est là où ils sont un peu surpris du fonctionnement du sport de haut niveau, parce que le sport de haut niveau ne te permet pas d'être dans l'à peu près, quoi. C'est impossible, parce que tu as des échéances qui sont au week-end, tous les week-ends tu es remis en cause, tous les week-ends il faut repartir au combat, et c'est permanent, alors que l'entreprise a une vision un peu plus lointaine, quoi. Mais en même temps, on a des leviers, nous, en tant que manager, que n'ont pas les managers de l'entreprise. Nous, un joueur ne te plaît pas, ne te remplit pas tes objectifs, tu vas le mettre en plaçant, tu vas le mettre en groupe, tu ne vas pas le reconduire dans l'entreprise. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, c'est tous ces leviers. J'aime discuter avec eux sur comment on parle de performance humaine, encore une fois. Comment je crée la vision. J'adore parler de vision, j'aime la vision. La vision, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre saison.
Là, c'est la classe. Ah non, j'en ai une dernière qui vient, mais je pourrais durer dire. Mais bien, je vous rassure, les gars, on va s'arrêter, il n'y a pas de problème. Mais avant, je l'ai dit, tu as repris le domaine de Pépus et tu as mis tes frangins maintenant et tu as mis aussi ta femme qui bosse pour toi. Est-ce que tu coaches tes joueurs comme tu coaches. Parce que là, il y a l'affect, c'est une autre forme d'affect aussi après derrière.
Je tolère des choses à Pépus, je tolère pas avec mon équipe.
C'est bien.
Ce sera le mot de la fin, messieurs. Un grand merci, je rappelle pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui vont nous regarder, Christophe Urios, une saison en enfer aux éditions Erol, voilà. Et j'invite notamment tous mes potes qui sont entraîneurs en Fédéral 2, Fédéral 1, ils se reconnaîtront. Je suis persuadé que pour eux ce sera précieux. Christophe Urios, merci beaucoup, on souhaite le meilleur évidemment aux managers, mais aussi aux managers de l'UBB pour cette fin de saison. Ce week-end c'est le Racing, c'est ça?
Ouais, match compliqué.
Comme toujours merci en top 14, en tout
cas, non? Non, Christophe, merci beaucoup et vraiment un plaisir. Bonne fin de saison à la fois à l'homme, au manager et tout ça. J'étais vraiment ravi de te recevoir dans notre émission et au plaisir d'en faire une dans quelques temps pour encore d'autres évolutions. Merci à toi.
Merci.
Merci, à très vite. Poulain Rafut, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.